Backstage, rencontre avec les acteurs du monde de la musique, afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Avec Julie Chaise-Martin. Les temps sont durs pour les artistes en ce moment, bien sûr avec la crise du Covid, mais aussi depuis plus longtemps, depuis que les règles ont changé avec l'arrivée du numérique. Comment se faire connaître? Suffit-il d'avoir un label? L'autoproduction est-elle la solution? Autant de doutes, de questionnements. Les acteurs de l'industrie musicale sont eux aussi un peu perdus, faut bien le dire. Et dans le jazz, sur Art District Radio, eh bien, on est tous les jours confrontés à des jeunes qui ont du mal, qui sont pourtant talentueux, surtout que le CD de jazz ne se vend plus. Alors je suis aujourd'hui dans un lieu un peu spécial, hors les murs du studio radio, je suis au CMC Studio à Sèvres, un autre studio du coup, un studio d'enregistrement, un studio créé par Céline Magnano, alias Charlie M, c'est votre nom de chanteuse. Bonjour Céline, merci de m'accueillir ici. On va parler un petit peu de ce lieu que vous avez créé en quelques mots et puis aussi un nouveau projet que vous avez ici. Vous voulez créer des masterclass. Alors c'est lancé d'ailleurs. Première masterclass sur 3 jours intensifs fin septembre. Voilà, alors d'abord un petit aperçu de ce que vous faites ici. Depuis combien de temps ce studio existe à Sèvres ?
Alors, bonjour. Donc, CMC Studio existe depuis novembre 2018. C'est un studio que j'ai construit, imaginé avec une petite équipe de 3 personnes. Et l'idée de cette structure, c'est d'effectivement, à moindre coût, faciliter l'objectif de développement d'un projet musical d'un artiste qui est débutant, semi-pro ou confirmé. Et donc pour ça, on utilise plusieurs outils, le studio d'enregistrement qui est la structure principale effectivement. Et puis après, j'ai une équipe et de partenaires et d'associés qui interviennent sur la partie identité visuelle, marketing, contractuel et présence digitale.
Oui, alors la présence digitale est devenue très importante, c'est ce que j'évoquais en introduction. J'imagine qu'il y a beaucoup de masterclass aujourd'hui qui sont un peu créées sur ces mêmes concepts. Qu'est-ce que vous allez proposer en plus ?
Alors en fait, ce qu'on va proposer en plus, c'est l'interaction entre les artistes, c'est l'interaction entre les artistes et les professionnels de la musique, et c'est surtout l'étude personnalisée du projet de l'artiste qui va être non seulement étudiée par les intervenants, mais aussi par le producteur Valérie Zetoun.
Voilà, alors justement, le joker, si j'ose dire comme ça, c'est Valérie Zetoun qui sera présent sur ces jour de masterclass, donc c'est du 23 au 25 septembre, hein, c'est ça. Voilà, donc je suppose qu'on peut s'inscrire encore, d'ailleurs, peut-être
que... Alors, il reste une place pour la session de septembre, et après, les sessions d'octobre et novembre sont ouvertes.
Alors, j'ai beaucoup de chance, parce que Valérie Zetoun est juste à côté. Merci beaucoup, Valérie, d'être ici, justement, voilà, pour évoquer... peut-être ces nouveaux moyens aussi d'apprendre la musique, hein, puisqu'une masterclass, bon, on en connaît sur d'autres domaines. Dans le domaine musical, bon, on se dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de choses peut-être à savoir qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut savoir être webmaster, il faut savoir être community manager, il faut savoir finalement aussi peut-être être graphiste. Au-delà juste d'être chanteur et musicien, et beaucoup d'artistes ont du mal à allier tout ça.
Oui. Mais je dirais qu'avant tout ce que vous avez cité, qui est tout à fait juste, il faut savoir si la proposition artistique de l'artiste lui correspond réellement. La problématique d'un jeune artiste, c'est que il y a personne qui lui dit des choses qui peuvent être constructives pour son avenir. C'est-à-dire qu'il a très certainement ses copains, ses parents, sa famille qui lui disent « Oh, c'est super !» Mais il a rarement la chance de pouvoir croiser des professionnels, que ce soit des réalisateurs, des auteurs, des compositeurs, des producteurs, qui ont un avis dont l'avis va être dénué de bons sentiments, en réalité. C'est vrai que quand on fait écouter un truc à sa famille ou à ses potes, bon, les gens ont plutôt tendance à être sympas en disant « Ah, c'est super !»
Oui, c'est-à-dire qu'il faut finalement aussi une critique constructive et pas seulement « Voilà, mon chéri, tu chantes très bien, continue. » Ça fait exactement. Du bien aussi à un artiste d'entendre la réalité, finalement.
Oui, exactement. Et la réalité, parfois, il peut y avoir des choses qui sont dures à entendre. Ton texte n'est pas super, tu peux l'améliorer. Je ne comprends pas ce que tu me racontes. Ta mélodie, elle est un peu plan-plan, on l'a entendue souvent. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble est mauvais. Ce qui veut dire que nous, on va essayer de, ce qu'on appelle, ce qu'on dit vulgairement, resserrer les boulons. C'est-à-dire écouter le projet et dire avec notre expérience où est-ce qu'il peut aller et comment il peut y aller. Et surtout, aider ces artistes à optimiser d'abord leur partie artistique et puis ensuite à leur expliquer comment ils peuvent se faire remarquer au milieu d'un nombre infini aujourd'hui d'artistes. Et il y a, je crois qu'il y a plus de 450 albums qui sortent par an. Il n'y a pas 450 chefs-d'œuvre. C'est comme dans le cinéma, il y a 600 films, il n'y a pas 600 chefs-d'œuvre. Donc à un moment donné, nous, notre rôle, ça va être que l'artiste qui s'inscrit au masterclass, il rentre avec son projet et il ressort avec une impression d'avoir amélioré son projet et de pouvoir aussi améliorer son positionnement dans les réseaux sociaux et puis aussi leur donner des conseils sur qui aller voir, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui aident les jeunes artistes à se développer. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Céline qui est une idée, je dois le dire, remarquable.
Oui, donc vous avez adhéré tout de suite à l'idée. Est-ce que vous aviez déjà, vous, puisque vous êtes producteur depuis longtemps, agent d'artiste, vous avez accompagné les plus grands pendant de longues années, vous avez votre label aujourd'hui d'ailleurs aussi. Voilà, on vous présente plus, on évoque Popstar sur M6 que tout le monde a vu sûrement, où vous êtes un petit peu sous les projecteurs d'un coup et donc là on vous connaît encore mieux. Aujourd'hui, vous avez, j'imagine, un regard rétrospectif aussi sur cette évolution de l'industrie musicale. Tout le monde en parle, hein, l'arrivée d'Internet, le CD qui se vend plus. Voilà, il faut trouver des nouvelles règles en fait.
Oui, je crois qu'il faut. Oui, vous avez raison. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, je reviens là-dessus, c'est important, c'est l'artistique. C'est pour moi, c'est le plus important. Je pense que un excellent titre se vendra un peu moins avec un mauvais marketeur, mais il se vendra, alors qu'un mauvais titre ne se vendra jamais, même avec le meilleur marketeur du monde.
Oui, donc. Mais pourtant on voit des jeunes, peut-être moins jeunes, mais enfin surtout des jeunes chanteurs qui finalement ont énormément de followers, et c'est ça qui marche. Le talent n'est pas forcément au rendez-vous.
Non, oui, oui. Non, mais alors là, on va partir dans une discussion philosophique, subjective. Les auditeurs, ils seront encore là après-demain. Hein. J'espère qu'ils ont.
Mais ils sont là, ils sont là.
Non, mais j'espère qu'ils ont un bon canapé, un réchaud. Non,
Non, mais c'est un vrai problème, en fait.
Il y a deux choses à ne pas confondre. On a des followers, oui. Il y a des mômes qui se mettent à poil et puis ils ont des followers. Des familles Kardashian, ils font des milliards parce qu'ils ont fait des sex tapes. Ok, ça, c'est une chose.
Non, mais je parlais plutôt des titres de musique qui sont, qui deviennent.
Mais en règle générale, les titres qui marchent, d'accord, sont les titres qui touchent les gens. Je connais pas d'artiste, moi, qui fasse une musique qui ne touche pas d'une manière ou d'une autre des gens et qui vendent leur musique. Ils vont certainement vendre leurs produits, ce qu'ils veulent, mais la musique, vous voyez bien que c'est à peu près toujours les mêmes artistes qui trustent les charts. Aujourd'hui, la carrière s'est raccourcie. C'est vrai que depuis 10 ans, il y a peu d'artistes qui ont réussi à faire 3 ou 4 albums d'affilée en faisant un carton comme c'était le cas avant. Mais il y a beaucoup plus de propositions et il y a une course qui est beaucoup plus dure, notamment dans le milieu du rap. Et d'ailleurs, il y a un terme dans le rap, ils appellent ça le « game ». C'est plus la carrière, c'est « t'es dans le game ou t'es pas dans le game ». Donc, on est dans un jeu, là. Mais je veux revenir à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de Céline de faire cette masterclass, ce qui m'intéresse, c'est de donner une analyse, une pure analyse artistique à l'artiste. C'est-à-dire l'artiste qui, bah, je vous donne un exemple, il y a plein d'artistes français aujourd'hui qui veulent chanter en anglais dans la pop. Bon, bah, j'ai envie de leur poser la question, pourquoi est-ce que tu veux chanter en anglais? Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que tu veux être en compétition avec les plus grandes stars anglaises, américaines, suédoises? Parce que dans les pays nordiques et même en Allemagne, c'est leur deuxième langue, pratiquement leur première langue à égalité, c'est l'anglais. Donc je dis, pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où la langue française est énorme, où on est dans un pays de littérature, où on a des artistes qui ont conquérir le monde avec le français, pourquoi est-ce que toi, jeune artiste, tu penses que tu vas faire la différence en anglais? Ça, c'est une des premières questions. En règle générale, c'est qu'ils sont pas sûrs d'eux, ou qu'ils savent pas exprimer leurs mots MAUX en français. Bon. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est rentrer profondément dans l'artistique avec eux, et leur donner une réelle analyse de leur travail. Sans pour autant dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est une analyse. Voilà. C'est qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ton titre soit vraiment, vraiment, vraiment ce que tu as envie de nous raconter.
Oui, alors Céline, peut-être un petit détail voilà, sur le programme de ces journées, les intervenants que les musiciens vont pouvoir rencontrer.
En fait, ce que vous disiez très justement tout à l'heure, et ce qui va compléter en fait, ce que vient de dire Valérie, vous parliez tout à l'heure justement de chanteurs qui ont plein de followers sur Internet. Et vous disiez effectivement très justement que maintenant, c'est comme ça que ça marche. La question, en fait, c'est... puisque aujourd'hui on ne peut plus signer en maison de disque, on ne peut plus passer sur les radios nationales comme ça, on ne peut plus voilà, tout simplement passer en radio comme ça, comment arriver à avoir ce public en fait virtuel qui nous suit? Et bien, il faut trouver justement ce que disait Valérie, un positionnement. Pourquoi? Pour pouvoir fédérer en fait, pour pouvoir fédérer un public virtuel. Et donc ça en fait, ça démarre par son bon positionnement artistique, et ça se complète aussi par un positionnement digital, en fait. Et c'est là tout l'intérêt de la formation, c'est juste, comme disait Valérie, c'est de proposer à l'artiste une direction artistique, mais aussi sur tout ce qui peut exister aujourd'hui pour qu'il arrive à se positionner dans l'univers digital et arrive à se démarquer. Et puis tous les outils qui existent pour arriver à se créer son public, à fédérer et donc, de fil en aiguille, à pouvoir intéresser des professionnels de la musique plus influents.
Oui, peut avoir des clés, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit aussi, je ne sais pas si vous avez un regard là-dessus, mais on voit beaucoup d'artistes, du coup, qui se lancent vraiment dans l'autoproduction, qui veulent même plus de labels, parce que, enfin, nous, à la radio, on a un peu, voilà, des artistes qui nous disent, bah non, les labels font plus vraiment leur travail, c'est plus comme avant. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais ils ont tout à fait raison, et c'est même, à mon sens, l'avenir de l'industrie musicale, c'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit maison de disques, labels, etc., ils ne veulent plus prendre de risques. Donc, au lieu justement d'investir sur un artiste, à moins qu'on s'appelle Valérie Zetoun, on va plutôt aller pêcher sur ce qui fonctionne sur Internet, justement, et au moins on prend pas de risques et on n'a pas d'argent à investir. Donc, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, l'objectif d'un artiste aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre en tête qu'il faut qu'il arrête de chercher la gloire auprès des maisons de disques, des radios nationales et compagnie, et qu'il utilise son propre potentiel et qu'il utilise son projet musical comme une véritable auto-entreprise. Et donc, comme n'importe quel auto-entrepreneur qui en maîtrise tous les aspects et tous les outils, c'est-à-dire l'aspect contractuel, l'aspect juridique, l'aspect marketing, l'aspect, j'allais dire presque comptabilité, mais bon, on n'y est pas encore, mais quoique, et l'aspect identité visuelle, bien évidemment, en complément de son potentiel artistique et de son positionnement artistique.
Oui, donc c'est un peu l'ère de l'artiste entrepreneur, en fait. Alors Valérie Zetoun, j'ai une petite question aussi sur le milieu du jazz, parce que nous, on est une radio très jazz, et je sais que vous aimez bien le jazz. Et c'est vrai que... Alors, c'est peut-être... Je sais pas, en fait, mais c'est peut-être... Nous, on a l'impression, en tout cas, que c'est peut-être encore plus compliqué pour le jazz, qui est vraiment une niche dans l'univers musical, où, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui émergent sur la scène jazz, mais le public n'est pas encore si jeune que ça. Et du coup, voilà, le CD de jazz, comme je le disais tout à l'heure, ne se vend vraiment plus. Peut-être qu'il y a encore quand même des CD de hip-hop, de musique électronique ou de pop qui se vendent, mais en jazz, c'est vraiment que lors de concerts, en fait, à la fin. Bon, et voilà, le public qui est présent achète quelques disques, mais voilà. Donc ça aussi, comment finalement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un musicien ou un groupe de jazz, enfin, sans dévoiler toutes les clés de la masterclass, évidemment, mais parce qu'il faut s'y inscrire, mais votre point de vue sur finalement, oui, l'avenir un peu du jazz aussi.
Le jazz, c'est une musique qui me passionne, mais je n'ai jamais produit d'artiste de jazz, donc je ne connais pas bien les arcanes du jazz. Quoi qu'on voit ces derniers temps, qu'il y a des artistes jazz qui ont un peu, on va dire, popisé. Le jazz
Diana s'ouvre, Krall,
voilà, Diana Krall qui fait un tribute to Nat King Cole, mais qui modernise un peu tout ça, etc. Donc là, on n'est pas dans le pur jazz, on est plutôt dans le, on va dire entre guillemets, pop jazz. Bon, et pour moi, malheureusement, le jazz, ça a toujours été une musique de live, hein, puisque ça démarre très vite dans les années 40, au sortir de la guerre. Et pourquoi la France est le premier pays après les États-Unis? Parce qu'il y a Saint-Germain-des-Prés, le Bilboquet et tous ces endroits qui deviennent un peu les écrins des jazzmen. Et d'ailleurs, il y a en ce moment, si vos auditeurs l'ont pas vu, il y a un docu sur Miles Davis sur Netflix qui est fabuleux, où c'est toute l'histoire de Miles et où il raconte que il fuit l'Amérique un peu parce que on est en pleine ségrégation et il y a cette fameuse photo où on le voit en sang parce qu'il est sorti d'un club de New York pour fumer une cigarette et qu'il y a un flic qui lui dit t'as pas le droit de fumer là et qui lui bastonne la gueule alors que c'est déjà le grand Miles Davis. Et il raconte que quand il arrive en France, il a il est accueilli comme une star et il a cette sensation de liberté parce que la France n'a pas la ségrégation et qu'il est traité comme une star. Et donc, les autres jazzmen le savent, viennent en France, et donc c'est pour ça que la France décolle et est un gros, gros territoire de jazz grâce à, je le redis, le Bilboquet, etc. Et puis, des producteurs comme Eddie Barclay, etc., etc., des grands producteurs français qui adorent le jazz et qui poussent cette musique aussi. Donc, il y a une vraie tradition. Donc, d'instinct, je pense que ça reste le live, ça reste faire un carton au New Morning, ça reste ça.
Quoi qu'il arrive, le problème reste le même, en fait. Comment il va arriver à se faire connaître et à fédérer? Donc, dans l'absolu, si. Les plateformes sont faites pour tout type de... Et les radios, justement, une plateforme comme Groover, par exemple, qui sert à promouvoir sa propre musique. Il y a aussi énormément de radios. J'en sais quelque chose, puisque c'est comme ça que je vous ai connu.
Par Groover, oui.
Exactement. Donc, du coup, voilà, il y a aussi des radios de jazz aussi. Donc, la problématique reste exactement la même pour les jazzmen.
Et alors Valérie Zetoun, à titre personnel, donc j'ai dit que vous aviez un label, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des projets, des idées, des espoirs?
Il y a mon label sur lequel j'ai 3 artistes. Et puis il y a ce projet qui est important pour moi de masterclass avec Céline parce que moi j'ai souvent souffert de l'image de notre métier au départ qui était le show business, le ci, le là, ces images là c'est vrai que comme dans tous les métiers il y a des gens très professionnels et puis il y en a qui sont limites. Je trouve que cette démarche de dire regardez, vous êtes un peu paumé, on va vous mettre sur les rails, elle est importante. Moi je suis arrivé à un âge où il faut que je rende ce que les vieux, entre guillemets, m'ont donné à l'époque où j'ai démarré. Donc, passer du temps et le faire de manière très professionnelle avec des gens qui, chacun dans leur domaine, savent de quoi ils parlent, qui ont des expériences, c'est important. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais refusé de le faire. On s'est rencontrés par hasard avec Céline parce que je voulais enregistrer un podcast et qu'on a un ami en commun qui m'a amené ici. J'ai fait mon podcast avec elle, donc là pour le coup j'étais pas producteur parce que je cherche un producteur pour faire mes podcasts parce que j'aimerais qu'on me dise là t'es bon, là t'es pas bon, donc c'est un peu ce qu'ils
ont fait. C'est quoi comme type de podcast?
C'est des podcasts où je raconte des histoires de musique.
Ça c'est lancé ou c'est en cours?
Non, pas encore, enfin... On a presque fini la maquette. Céline croit qu'on l'a fini, mais en fait, j'allais lui dire je profite que vous soyez là pour pas qu'elle gueule, que je suis pas tout à fait... Mais c'est pas d'elle que je suis pas satisfait, c'est de moi, donc bon...
Des histoires avec des invités ou...
Oui, non, ouais, c'est des histoires que je raconte. Voilà, le premier podcast, c'est l'histoire de Sounds of Silence, qui est la chanson, c'est très rare dans l'histoire de la musique, c'est une chanson qui a réuni Simon & Garfunkel, qui les a séparés, re-réunis et re-séparés. Donc je raconte un peu l'histoire, comment cette chanson de 4-3 minutes 50 a permis à un des plus grands groupes de pop-folk d'exister. C'est vraiment, c'est 3 minutes 40. Sans cette chanson-là, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Simon & Garfunkel. Bon, donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de partir aussi, une partie de mon métier, de raconter des belles histoires de ce métier. Mais pour en revenir à Céline, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis elle m'a parlé des masterclass, je sais plus comment ça s'est passé. Et en fait, j'ai accepté de le faire avec elle, j'avais refusé avant parce que, justement, elle a été artiste au départ, donc elle sait ce que c'est qu'un parcours d'aller en maison de disque, pleurer un rendez-vous avec en règle générale un directeur artistique qui vous regarde à peine, qui fait oui coco je te rappelle, qui rappelle pas, etc. Elle a cette expérience, elle a eu son expérience d'artiste, et puis après de cette expérience, ben elle n'a pas pour autant abandonné la musique parce que son truc a pas cartonné comme il devait, mais elle s'est trouvée une autre voie dans la musique, c'est-à-dire la production, la réalisation, créer un studio, etc., etc. Donc c'est une vraie entrepreneuse. Et à un moment donné, moi cette expérience-là, elle m'a fasciné parce que j'ai tellement vu. Moi, un jour j'avais signé une jeune artiste, ça n'a pas marché, j'ai rendu son contrat. Elle m'a dit est-ce que tu te rends compte que tu as niqué ma vie ? Je lui ai dit mais quand je t'ai signé, tu m'as pas dit tu as fait de ma vie un. Donc là, la démarche, elle est différente. Et peut-être que dans les gens les jeunes artistes qu'on va voir, bah, il y a peut-être un futur producteur qui ne le sait pas. Il y a peut-être un futur qui fait de la pop, mais qui peut faire autre chose en musique. C'est ça qui m'intéresse dans cette démarche. Et c'est cet inconnu-là qui m'excite encore aujourd'hui. Partir d'un métier de la musique et réussir dans un autre, mais c'est aussi des expériences qu'il faut qu'on apprenne avec les autres. Parce que la musique, c'est vaste. Ça va, effectivement, on voit le chanteur. Mais il y a l'auteur, il y a le compositeur, il y a le directeur de salle, parce que il y a des tas d'anciens rockers qui sont devenus des très bons directeurs de salle. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Arnaud Delbar, il a démarré à faire du baloche à la basse à Lille, et il a été patron, créé le Zénith de Lille, et puis patron de l'Olympia pendant 14 ans. Donc, il n'était pas un grand bassiste, mais il est devenu un grand du métier. Bon, donc c'est aussi une manière de déceler d'autres talents, pas que les chanteurs, parce que ce métier est vaste. Donc c'est ça qui me passionne, moi. Et le parcours de Céline, il est passionnant pour ça. C'est pour ça que je lui ai dit, oui, je veux bien le faire avec toi, allons-y.
En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est vrai, enfin, ça donne envie. On sent la passion dans votre voix, Valérie Zeytoun. C'est vraiment particulièrement intéressant, je trouve, de dire effectivement qu'on peut aussi se trouver des vocations peut-être autres que effectivement la musique, c'est une industrie, on parle d'industrie musicale avec plein de corps de métier, hein, comme dans le cinéma. Donc c'est voilà, la masterclass, là c'est le premier opus, fin septembre, il y en aura tous les mois. Vous allez, je pense, Céline aussi, au fur et à mesure des sessions améliorer tout ça, ce concept, et voir aussi plein de gens différents. Est-ce que Valérie Zeytoun sera là à chaque fois? Comment ça, ou vous inviterez aussi d'autres interlocuteurs comme ça qui ont une expérience particulièrement intéressante?
La première pour savoir si elle me garde.
C'est ça. Non, oui, j'espère que Valérie sera là tout le temps, bien sûr, puisque cette idée est vraiment partie aussi de sa présence. Donc c'est important pour moi qu'il soit là, c'est sûr. Après, évidemment, qu'on va améliorer le contenu, non seulement au fur et à mesure des artistes qui vont nous faire leur retour d'expérience, mais aussi au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie musicale aussi, puisque bien évidemment qu'on se tient à la page. Concernant les intervenants, pour l'instant on reste sur cette base, mais moi j'ai d'ores et déjà parlé à Valérie d'un point aussi que je trouve manquant à la formation, qui est la partie live. comment justement arriver à faire plus de live en tant qu'artiste et quels sont les outils aussi et les plateformes qui existent pour arriver à faire du live. Et j'ai déjà parlé à quelqu'un qui est assez calé là-dessus, qui est directeur d'une salle aussi de concert, qui va potentiellement prendre le relais là-dessus. J'ai aussi l'intention aussi de faire intervenir des différents artistes pour nous raconter leur retour d'expérience. J'ai un artiste là qui est dans le néoclassique et qui est un peu à la Jan Tiersen, donc c'est vraiment pas facile pour lui d'exister en tant qu'artiste, donc, parce que c'est très instrumental. Il a réussi là récemment à signer chez Deutsche Grammophon, donc et il a 45 ballets, donc il a vraiment mis et utilisé tous les outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir réussir. Il a travaillé comme un acharné pour pouvoir réussir. Il a enfin signé et il est le plus heureux de la terre, et son truc est en train de décoller à mort. Donc voilà, ça c'est très intéressant à raconter aussi à des gens qui pensent que c'est fini, quoi, tout simplement. Ça n'est jamais fini. Donc voilà, l'idée en fait, encore une fois, comme disait Valérie, c'est de trouver là où on est bon, en fait, là où on est bon, et d'arriver à bien se positionner et d'aller là-dedans.
Alors ça donne très envie, c'est 3 jours hein, de formation. Donc la première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 23 au 25 septembre, donc c'est très bientôt. Et après, ce sera chaque mois, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, concrètement, c'est la dernière semaine de chaque mois, les mercredis, jeudi et vendredi. Pour l'instant, on est sur ce rythme-là. Donc là, octobre, ça va être du 28 au 30 octobre. Et je crois, de mémoire, que c'est du 25 au 27 novembre, il me semble.
Donc là, on peut déjà aller sur votre site internet pour... alors, il reste, je crois... une place, voilà, pour septembre, mais en tout cas pour les autres, on peut déjà aller s'inscrire.
Tout à fait, on peut aller s'inscrire. Il faut savoir également que on est en cours de déclaration d'activité pour pouvoir faire appel à des organismes d'aide à la formation, type Pôle emploi, compte CP, les heures CPF, l'AFDAS notamment. Et donc on est en cours d'enregistrement, donc d'ici la session d'octobre ou novembre, on pourra aussi faire appel à ces organismes-là. Toujours dans l'objectif de pouvoir faciliter aussi cet accès à la formation, on peut bien évidemment nous contacter si on veut pouvoir avoir des facilités de règlement. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour voir comment on peut vous aider pour pouvoir venir chez nous.
Voilà, donc contactez Céline Magnano. Merci beaucoup Céline. Donc le site internet c'est cmc-studio.fr pour avoir toutes les informations sur cette nouvelle masterclass et avoir la chance donc de rencontrer Valérie Zetoun. Un petit mot de la fin, Valérie?
Oui, et un mot de la fin. Je voulais revenir sur le terme que vous avez employé, ce terme qui est industrie musicale. Moi, ce terme aujourd'hui, je le rejette. Ce côté industriel, c'est pas moi. Moi, je pense que nous sommes des artisans. Et que la masterclass qu'on va proposer, c'est une masterclass d'artisan. C'est-à-dire passer du temps avec les gens, faire quelque chose de sur mesure. Le mot industrie, vous avez raison, ça devient une industrie quand les artistes explosent et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais avant, c'est de l'artisanat. Quand Céline passe 5 heures en studio avec un jeune artiste pour se prendre la tête sur quel instrument, ta mélodie, c'est de l'artisanat, c'est 5 heures. C'est de l'humain.
C'est de l'humain,
en
voilà.
Réalité. Oui. C'est de l'humain. L'industrie, ça implique de l'automobile, etc. Nous, on fait de l'humain. Ce terme, industrie, il a été créé dans les années 90 parce qu'il y a eu la pub télé pour vendre les artistes et que la musique avait besoin de grossir et dire par rapport au pouvoir public, nous sommes une industrie, donc vous devez nous aider, etc., etc. Mais moi, je tiens à ce côté artisanal. Moi, je pense qu'on est des petits artisans. J'ai pas honte de dire ça, parce qu'on va donner beaucoup de temps aux artistes. Voilà, c'est tout ce que c'est ce que je voulais vous dire. Bon,
bah, c'est parfait. On est très contents. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, donc de m'avoir reçu ici au CMC Studio à Sèvres. Donc, merci beaucoup, Céline.
Merci à vous.
C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.